Chapitre 4. Oui, disait-il plusieurs jours après, c'est une petite rusée que cette paysanne. Elle sait, comme nos dames, soupirer, causer et cligner des yeux. La simplicité des villageoises, quand la fausseté s'y mêle, est cent fois plus dangereuse, parce qu'on croit plus facilement leur sincérité. Et pourquoi Oulana serait-elle une exception? Pourquoi m'abaisserais-je au point de m'attacher à cette femme, à la simple femme de Ronxar? Oh, c'est une vieille maladie qui se fait sentir de nouveau. C'est d'une faiblesse et un enfantillage impardonnable. Rêver aux yeux d'une villageoise qu'aiguise la coquetterie, auquel peut-être l'avidité ajoute de l'éclat et que la fausseté rend encore plus attrayant. Rêver à une bure grise sous laquelle chemine la réalité, mais c'est une sottise. Il sortit et ferma brusquement la porte derrière lui. Et dans le vestibule, il trouva de nouveau qui ? Oulana. Cette fois, si, elle leva vers lui plus hardiment ses yeux noirs. « Que fais-tu ici ? » ?»« Comme j'ai servi autrefois au château et que je sais blanchir, on m'a pris pour y faire la lessive. » « Et sans doute que les domestiques en sont très contents. »« Oh, mais moi, mon mari vient de mes pieds jusqu'ici, c'est un malheur. » Thaddée haussa les épaules. Et apercevant son régisseur dans la cour, il l'appela. « Monsieur Lilovski, donnez l'ordre à Oxen Longsar. » À ces mots, la femme pâlit et prit la fuite. « À Oxen Longsar, continua Thaddée, de se préparer à partir. A-t-il des chevaux ?»« Oui, monsieur, ce sont même les meilleurs du village. »« Et il partira avec vous pour Berdisiègle. » Vous avez besoin, n'est-ce pas, d'un chariot et de son attelage. Je voulais prendre celui d'une métairie du château. Bien, je me suis justement arrêté à une autre combinaison, parce que les chevaux de la ferme me sont nécessaires. Dans la chaumière de Ronxar, les paysans habitent. Ce me semble à plusieurs, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Eh bien, il peut se mettre en route. Oui, il peut, monsieur. Bon, je vous prie d'exécuter de tout point ce que je vous ai dit. Le régisseur attribua cet ordre à des ménagements chimériques et bizarres pour les chevaux de la métairie, mais se retira. Mais Oulana, elle aussi, n'y était plus. Thaddée resta devant la porte à la gaieté. Il se rendit ensuite au jardin. Il savait que là-bas, du côté du lac, on pendait quelquefois du linge pour le faire sécher, qu'on y allait chercher de l'eau. Jamais dans sa vie il ne faisait attention à ce qui se passait dans sa maison. Mais maintenant, tous ces détails lui revenaient à la mémoire. Ce qu'il ne savait pas, il le devinait. Une passion naissante à une dizaine d'yeux. Il descendit au lac. Oulana y était en effet, mais pensive, les bras pendants. Et sans le voir, elle remuait les épaules, hochait la tête et s'entretenait avec ses pensées. « Eh bien, tu seras au moins pour quelque temps délivré de lui. » Oulana, en se retournant, poussa un cri. « Oui, ton mari partira aujourd'hui, » ajouta Thaddée. « Oh, il me le fera payer. » « Et d'où peut-il savoir le motif de son départ ?»« Moins il sait, plus il a de soupçons, » répondit la paysanne. « À quoi songeais-tu, à quoi réfléchissais-tu ainsi ?» Lorsque je suis venu ici, est-ce que je sais? Mais pas à moi, n'est-ce pas? Est-ce à moi de penser à vous, monsieur? Et pourquoi pas, puisque moi je pense à toi?
À moi?
Répéta la femme en le regardant dans les yeux.
Et pourquoi cela?
Je l'ignore moi-même, reprit naïvement Thaddée. « Mais depuis que je t'ai vu pour la première fois, tu ne cesses de me hanter l'esprit. »«
Moi ? Quelle croix pour moi ? Monsieur penserait à moi ?»«
Oui, il me semble que je t'aime, ma petite Oulana. Mais non d'un amour comme les vôtres, non comme les paysans ni comme les domestiques, mais quand même les châtelains. Tu m'as ensorcelé, méchante. » Il s'approcha d'elle, la prit à mi-corps et voulut l'embrasser. Mais elle s'arrêta de ses mains, tout effrayée, et s'écria douloureusement en dialecte ruthénien:
Oh, mes enfants!
Tu as des enfants?
J'en ai, répondit-elle à voix basse. Ah, oh, de petites pauvrettes!
Mais que crains-tu pour elles? Reprit-il en s'approchant de nouveau. Est-ce que je leur ferai du mal? Ton mari les maltraitera-t-il?
Oh,
répondit tristement Oulana,
j'ai entendu parler beaucoup de cet amour-là. Il finit toujours misérablement. Et mes enfants seront malheureux.
Moque-toi de cela, Oulana, dit Thaddée en écartant ses cheveux de son visage, comme s'il voulait du même coup écarter ses pensées. Pourquoi cela finirait-il mal?
Mais quand on a fait un serment à quelqu'un en pleine église, et que le prêtre vous a béni et conduit au pied de l'autel, quand on a baisé ensemble la croix et bu dans le même calice, oh, c'est pas bien de rompre son serment, et cela porte toujours malheur. Personne ne force à jurer, et il faut garder sa foi.
Thaddée resta à court de parole. Écoute-moi, Oulana, dit-il en lui entourant le cou de ses bras avec violence. Aujourd'hui, ton mari partira. Y a-t-il d'autres gens que vous dans la chaumière? Elle gardait un sombre silence. Eh bien, tu ne veux pas me répondre? Alors je le demanderai à mon régisseur, et tout le monde se doutera du pourquoi.
Oui, nous sommes plusieurs dans la chaumière, reprit Oulana avec précipitation, en relevant les yeux. Un valet de charrue, une servante et les enfants. Mais en quoi cela vous importe-t-il, monsieur?
Écoute-moi, dit Thaddée, j'irai aujourd'hui chez toi. À ces mots, ne voulant ni connaître ni écouter la réponse, il se retourna subitement et se dirigea vers le château. Une seule fois seulement, il jeta involontairement les yeux en arrière. Il s'aperçut qu'Oulana ne bougeait pas de sa place et essuyait ses larmes avec le bord de son tablier. Chapitre 5. Le soir arriva et puis la nuit. Thaddée, qui avait déjà accoutumé les gens à ces bizarreries, se glissa doucement hors de la maison et s'achemina vers le lac. La nuit était noire. Dans le village, toutes les lumières étaient éteintes. Il n'y avait de clarté qu'au cabaret, dont la fenêtre éclairée se réfléchissait dans les eaux paisibles du lac. De temps en temps, on entendait çà et là, dans le lointain, l'aboiement des chiens de garde, le murmure de l'eau, qui était bercée comme un enfant qui s'endort, le grincement de la barre du puits, secouée par le vent, le chant des coqs et, par intervalles, le beuglement des troupeaux dans les étables. Ces bruits, sur le fond silencieux de la nuit, faisaient l'effet de couleurs tranchantes sur le fond obscur d'un tableau. Avec la palpitation de cœur qui accompagne toujours une affaire pareille, Thaddée cheminait le long de la rive du lac, plongé dans ses méditations. Il avait la tête bouleversée avec des pulsations et des battements à tout rompre. C'était le fracas inconcevable de ses pensées, et le sang lui courait dans les veines comme des vagues de feu. Ses dents claquaient, ses mains tremblaient, son front se couvrait d'une sueur froide. Il se trouva, sans même s'en apercevoir, tout proche du cabaret auprès duquel il devait passer pour aller du château au village. Heureusement qu'il n'y avait plus personne devant le cabaret presque endormi, dans lequel seulement la voix d'un petit marmot juif se faisait entendre. La nuit était si noire. Sans faire attention à la boue, aux flaques d'eau et aux ornières, Thaddée allait tout droit à la chaumière, sachant très bien où elle était située. Encore enfant, il parcourait souvent avec sa bonne le village. Il se souvenait de chaque arbre, de chaque détour de la rue. Il reconnaissait dans l'obscurité chaque passerelle, chaque puits, chaque hangar. Il était sûr de ne pas se tromper. Mais lorsqu'il se glissa près de la chaumière, il était aussi troublé, aussi inquiet qu'un voleur. Parce que S'il ne l'était pas encore, il voulait déjà au moins le devenir. Il s'arrêta, puis écouta. Tout était calme alentour. Ayant levé les yeux, il distingua quelqu'un en blanc debout sur le seuil. Ce quelqu'un et lui, au milieu des ténèbres, s'étaient devinés, entendus, aperçus par le pressentiment. Thaddée toussa, la figure blanche se serra contre la porte, et lui s'avança vers elle sans bruit. Il comptait sur son prestige de châtelain et sur la corruption féminine. Il calculait qu'elle n'était plus pure. Et quelle espèce de volupté voulait-il trouver là? Oh, que le cœur humain est inconcevable! Qui l'a jamais compris alors qu'il obéit aux passions charnelles? Pauvre être égaré, pauvre foyer de désirs insensés! Thaddée, en s'approchant, reconnut facilement que la silhouette en blanc était celle d'Oulana. C'est toi?
Qui est là?
C'est moi.
Oh, monsieur! « Monsieur !»
répéta la femme avec inquiétude en changeant de place.
« Vous êtes venu, monsieur? Pourquoi? Pour être la cause de mon malheur, de mes larmes, de ma misère? Monsieur, allez-vous-en, monsieur, allez-vous-en »
« M'en aller, lorsque tu m'as attendu sur le seuil ?» reprit Thaddée en souriant. « Mais je devrais m'en aller ainsi ?»«
J'ai attendu, c'est vrai, » répondit Oulana. J'ai attendu exprès pour vous prévenir, afin que personne ne vous voie. Pour vous prier, monsieur, de ne pas entrer. Quelle croix pour moi, malheureuse. Monsieur, monsieur, moi je ne suis pas telle que vous pensez. Et c'est là votre amour?
Ajouta-t-elle.
Oh, mais c'est pire que la haine.
Thaddée, surpris de la voix étouffée, sanglotante et fortement indignée de cette femme, fut tellement stupéfait qu'il ne savait plus qu'entreprendre. « Allons, allons, Oulana, » dit-il tout confus en s'approchant d'elle. « Entrons dans la chaumière. De quoi as-tu peur ?»«
Dans la chaumière? Et pourquoi? Pour qu'on nous voie, pour qu'on nous entende, pour que je sois malheureuse, pour que... »
Et elle commença à pleurer.
« Dieu me punirait dans mes enfants. » Ma maison, mon bétail et mon pain.
Entrons-y, entrons, Oulana, insistait Thaddée. Si Dieu veut punir, il ne punira que moi.
Mais quelle croix pour moi! Je n'irai pas, non, je ne le veux pas. Je n'y entrerai pas. Je crierai, je réveillerai tout le village, j'appellerai tout le monde. Allez-vous-en, monsieur, allez-vous-en.
Veux-tu donc, reprit Thaddée avec violence, en grinçant les dents, que je me venge, que je te force?
« Et que me ferez-vous, monsieur ? » demanda-t-elle. « Vous ordonnerez qu'on me batte ? Est-ce qu'on ne me bat pas sans cela ? Vous me reprendrez mon pain ? Il n'y en a déjà pas beaucoup, et les enfants sont petits. Vous ne les livrerez pas à la conscription ?»
Thaddée s'enfonça dans de lugubres réflexions. Il voulait encore une fois s'approcher d'elle, mais un couteau brilla dans l'obscurité comme un éclair aux mains de cette femme.
« Doucement, j'ai un couteau, » murmura-t-elle. « J'ai un couteau, je l'ai pris exprès, et je me défendrai. »
Thaddée, en entendant cela, resta muet de surprise et se calma.
« Vous avez cru peut-être, monsieur, » dit-elle avec précipitation, « que parce que je suis belle, je n'ai plus ni foi ni cœur et que je ne connais plus Dieu. Oh !»
Et elle se mit à rire d'une voix tremblante, sourde et triste. C'était un rire amer, équivalent à un sanglot.
« Allez-vous-en ailleurs, monsieur. Vous en trouverez une seconde, une troisième, même une dizaine, mais pas moi. Si quelqu'un arrivait, je serais forcé de crier, et ce serait une honte pour vous.
Tu ne veux pas de moi, ni de mon amour ?» chuchota Thaddée d'un air demi-moqueur, demi-fâché.
« Oh, est-ce là de l'amour ? » demanda-t-elle. « Est-ce là l'amour que j'ai rêvé, dont il est question dans les chansons et dont on s'entretient pendant les veillées ? L'amour seigneurial, l'amour royal, je le sens, est tout à fait autre. L'autre, oh, l'autre, oh, il n'est point pour nous, misérables. Il ne faut pas le chercher sous le toit d'une chaumière. Ce n'est pas des manoirs et usés par le travail à le bercer.
Quelle femme étrange, se dit Thaddée en lui-même. Bonne nuit, Oulana. Et elle lui répondit à voix basse d'un ton railleur.
Bonne nuit.
Il ne bougeait encore pas de place et ne savait que faire de sa personne. Elle disparut. Plein de confusion, il se traînait lentement vers son château en répétant « Quelle femme étrange !» Chapitre 6. Le lendemain matin, il eut hâte de gagner la forêt, réfléchissant encore à son aventure de la veille. Il avait honte de lui-même et regrettait sa promenade nocturne. La conduite de cette femme lui restait dans le cœur comme une énigme inconcevable. Tantôt il pensait que ce n'était qu'une feinte habile, tantôt il s'efforçait d'admettre la vertu féminine dans une condition où ordinairement les femmes n'ont aucune compréhension de la vertu et prennent les galanteries seigneuriales plutôt pour une consolation et un événement désirable que pour une épouvante et un malheur. Elle a peur de son mari, et voilà tout, pensait-il en lui-même. Et en se rappelant les traits de son visage, son regard, dont l'expression indéfinissable s'accordait si mal avec sa casaque grise, il semblait deviner qu'il ne fallait pas, lui appliquant la même règle générale qu'aux autres femmes de sa classe, la taxer de corruption, de crainte, d'indifférence. C'était peut-être une perle enfouie dans la boue, mais comment avait-elle l'éclat et l'apparence de la perle? Comment se faisait-il que Dieu eût donné un tel visage, une telle âme à une femme de cette condition? Comment la corruption qui l'avait entourée, inondée, ne l'avait-elle pas souillée jusqu'à présent? Quel ange avait veillé sur sa jeunesse? Qui lui avait inspiré cette fierté, ce respect de soi-même, l'amour de la vertu et la conception de la sainteté du serment? C'est ce que non seulement Thaddée, mais personne à sa place n'eût su s'expliquer. Il s'engagea lentement dans la forêt, le fusil sur l'épaule. C'était un jour de fête. Il rencontrait beaucoup de gens qui allaient ramasser des champignons et des baies. Dans le lointain, on entendait déjà des chants et des cris au milieu du bois. Il jetait des regards inquiets. Parmi ces figures qui glissaient comme des ombres, il cherchait Oulana. Qui sait s'il n'était pas sorti de sa maison avec cette pensée? Il voulait la rencontrer, quoiqu'il ne voulût pas se l'avouer à lui-même. Absorbé dans ses pensées et allant où ses jambes le portaient, il s'enfonça dans un fourré épais, au-delà duquel il y avait un petit marécage, et puis un ancien tertre tumulaire où il avait contracté l'habitude de se reposer. Le maître et le chien couchant gravirent machinalement un sentier tracé, il semble, par eux-mêmes, et qui conduisait au haut du tertre des deux frères. C'est le nom qu'on lui donnait. Il était situé au plus épais d'un fourré qu'entourait des noisetiers, des ronces et des buissons. Hormis le chasseur, personne n'y pénétrait, et même celui-ci s'y aventurait rarement, car il lui fallait ou faire un long détour ou patauger dans une boue épaisse pour atteindre la colline que couronnait ce tertre. Selon la tradition populaire, deux frères y auraient péri sous la chute d'un pin qu'ils abattaient. On tenait donc ce lieu comme terrible et maudit. Personne ne s'y risquait, personne ne le fréquentait, même les gardes forestiers l'évitaient en faisant un signe de croix. Et bien que ce soit une coutume générale de jeter des branches sur de pareils tertres, on n'en voyait presque pas ici. Il n'y avait personne pour en jeter. On racontait beaucoup de fables sur ce lieu pendant les longues veillées, mais presque tous s'accordaient sur un point, c'est que c'était un endroit maudit et fatal. Les uns prétendaient qu'un des deux frères était devenu amoureux de la femme de l'autre, et vivait avec elle, que celui-là le savait, le permettait, car il craignait sa femme infidèle et son méchant frère, et que Dieu leur en avait puni tous les deux.
Selon d'autres, ils auraient péri parce qu'ils abattaient un pain le dimanche. Selon d'autres encore, un frère tua l'autre et un pain écrasa l'assassin. Mais tous répétaient que c'était un lieu trempé de sang, non vengé et maudit. Thaddée, en gravissant ce tertre, se détournait à tout moment avec une espèce d'effroi pour voir s'il n'apercevait pas quelque part les esprits des deux frères tués dont il avait entendu parler par sa bonne. Son chien flairait en courant le long du sentier, se détournait, relevait la tête, aboyait, grondait et s'arrêtait de temps en temps. Cela étonnait Thaddée, qui s'expliquait l'inquiétude du chien en supposant qu'un des chercheurs de champignons avait pu pousser jusque-là, peut-être en perdant sa route. Enfin, il franchit ce fourré épais, et après avoir longé pendant quelques dizaines de pas une prairie humide, il s'approcha du tertre et releva les yeux. Sur le sommet, ô miracle, Oulana était assise, le coude appuyé sur les genoux, la tête sur la main, le dos contre un arbre. Ses yeux erraient au loin, par-delà la forêt, par-delà la montagne. « Encore elle ?» s'écria Thaddée en s'arrêtant. « Toi ici ?» ajouta-t-il à plus haute voix. Oulala se leva brusquement. « Ah !» s'écria-t-elle. « Je pensais que du moins ici vous ne me trouveriez pas, monsieur. » Elle voulait s'enfuir. Le chien se lança après elle. Elle s'arrêta, effrayée, et Thaddée s'approcha. « Mais pourquoi t'enfuis-tu » dit-il lentement, en feignant le calme de l'indifférence. « Ici, au moins, tu n'as personne à craindre. »« Mais que vous, monsieur ?» repartit-elle brusquement. « Moi, je ne suis ni un paysan ni un domestique, Oulana. » Je ne pense ni à te battre, ni à te faire violence.
« Non ?»
demanda-t-elle des lèvres et des yeux.
« Bien sûr que non. »«
Oh non !» répondit Thaddée. « Si je t'aimais, ce ne serait pas comme eux. » La femme prit courage. « Ni non plus comme t'aime ton mari, mais comme personne ne t'a encore aimé. Tu n'as même jamais entendu parler d'un amour pareil. »«
Et qu'y aurait-il après ?»
demanda-t-elle à voix basse, le regard timide, et en jouant avec les bords de son tablier. « Rien, je t'aimerai longtemps, toujours, jusqu'à la mort. »«
Oh, je sais qu'en pareil amour, il faut toujours que la mort intervienne à la fin. La mort, absolument. »«
Mais qui te parle de mort ?»«
Est-ce que je l'ignore ? Chaque fois que j'ai ouï mentionner un amour pareil, dans les chansons et dans les contes, il était toujours à la fin question de tombe et de mort.
Mais n'en crois rien, Oulana. On peut s'aimer et ne pas mourir pour cela.
Thaddée, en disant cela, était déjà tout près d'elle. Il la fit asseoir, moitié de force auprès de lui, en passant le bras autour de sa taille. Elle était tellement absorbée dans ses rêveries qu'elle oubliait presque de se défendre et ne disait rien. Mais quand il s'inclina pour l'embrasser, elle s'écarta et voulut alors seulement se lever.
« Mais n'aie donc pas peur, » dit Thaddée. « Permets-moi au moins de t'admirer un peu. »
Avec la charmante vivacité d'une enfant, Oulana leva vers lui ses yeux enchanteurs et le fixa de telle sorte que Thaddée ne se rendait pas compte si réellement ce pouvait être le regard d'une simple paysanne. Ce regard semblait dire tant et tant d'étrangetés, révéler tant de mystères surhumains, promettre tant de félicités, renfermer tant de rêveries à venir. Quelqu'un de vous a-t-il jamais rencontré un regard aussi merveilleux chez une femme vêtue d'un casaquin gris, qui n'était un ange que par son regard seul, car pour le reste c'était corps et âme une ménagère? N'est-ce pas un martyr affreux que de contempler cette statue qui annonce une belle âme et qui ne la possède pas, ce regard qui dit tant de choses que les lèvres ne sauraient répéter? Une telle femme est une anomalie effrayante. Et de pareilles femmes se comptent par centaines, par milliers, par millions. Dans la prunelle perce toujours un brin d'âme, et quand cette âme, on l'a déjà entièrement étouffée chez soi par une vie animale, ce qui en subsiste se réfugie dans les yeux. Les yeux savent parler, promettre, chanter, mentir, alors même qu'au fond, ils ne recouvrent qu'un précipice ou qu'un désert. « Ah, ma chère Oulana !» lui dit-il à voix basse, ensorcelé par son regard. « Cet amour dont tu as entendu parler, ce doux amour, il lui suffit de voir l'être aimé, de toucher sa main, de s'approcher de ses lèvres. » En sentant qu'il lui prenait la main, la femme, dans son égarement, le considéra avec un sourire. Son regard exprimait de la terreur et presque de la soumission, mais une soumission due à la crainte et non au raisonnement. Thaddée reconnut avec effroi, lâcha la main qu'il avait à peine touchée et plongea ses yeux dans les siens. Le contact de cette main rude, usée par le travail, qui ne savait point frémir même entre ses doigts, aurait pu le désenchanter. Il regardait. Elle avait baissé les yeux, sentant, malgré sa simplicité, ce qu'il y avait de passionné et de dangereux dans son regard à lui, et quelle tempête grondait sous ses paupières souriantes. « Veux-tu m'aimer ainsi ?» demanda-t-il après un instant. « Moi, oh monsieur, est-ce que c'est possible ? Moi, malheureuse, mais... »«
Mais quoi ? »
Peut-on l'avouer franchement?
Oui, franchement, très franchement, dis ce que tu veux.
Eh bien, franchement, je l'ignore, reprit-elle en se voilant les yeux. Monsieur m'a ensorcelé. Il se passe quelque chose en moi que je n'ai jamais éprouvé de ma vie. Il me semble que je m'éveille, que déjà jadis quelqu'un m'a aimé de la sorte, et que je ne suis pas la femme de Honoxcar. « Femme de Hoxha, » répéta-t-elle en soupirant, « malheureuse que je suis, quelle croix pour moi, avec deux enfants dans ma pauvre chaumière. Oh, monsieur, est-ce que vous pourriez devenir amoureux d'une telle misère? Et mon mari ?»«
Oh, c'est autre chose, » ajouta Thaddée avec un sourire contraint.
« Autre chose? Et un amour pareil n'est pas un péché ?» demanda-t-elle naïvement.
« Mais sûrement, ce n'est pas un péché. Mais m'aimeras-tu, Oulana ?»«
Est-ce que je sais? Est-ce que je sais? Seulement, quelque chose d'inconcevable se passe en moi. Je ne sais quoi, de triste, de doux, mais de terrible. J'ai déjà peur que monsieur ne m'abandonne. Je pense avec frayeur au lendemain. Et vous-même, je vous redoute. J'ignore pourquoi.
Mais pourquoi aurais-tu peur de moi? Moi, je t'aime tant.
Oh, monsieur, mais cet amour, c'est pour une heure seulement. Moi, je sais, j'ai entendu dire, je pense, que vous ne pourrez pas aimer une simple femme comme moi. Aujourd'hui, demain, vous m'abandonneriez. Est-ce que je sais tout ce que vous savez, monsieur? Suis-je habillé aussi bien que vos dames? Que la femme du régisseur, que la femme du pope et que ses filles. Oh, elles sont belles et moi. Non, non, non. Cela ne peut pas être. Pour s'aimer, il faut être d'une même condition. Moi, je suis une paysanne. Moi, je suis laide. Je ne saurais vous comprendre comme vos dames.
Mais tu es 100 fois plus belle dans ta casaque, Oulana. Ne crains rien. Elles donneraient tous leurs vêtements éclatants, seulement pour tes beaux yeux. Et pourquoi mentirais-je, si je ne t'aimais pas?
Pourquoi non? Au Seigneur, c'est permis, d'abord de s'amuser, puis d'abandonner.
Non, non, ce n'est pas moi qui le ferais, ce n'est pas moi qui te tromperais, oh non!
Reprit avec indignation Thaddée, que la solitude, le regard de cette femme, et même sa manière de parler exaltait de plus en plus.
Tu ne me connais pas. Je n'aime pas plaisanter, et ma parole vaut autant qu'un serment.
Et si vous avez pu penser, monsieur, que je vous laisserais vous glisser la nuit dans ma chaumière, ne pouvez-vous pas penser aussi qu'il est licite de me séduire et de me tromper? Je ne te connaissais pas alors, Oulana. Je ne savais pas que tu étais. Je ne l'ai appris que maintenant. Oulana poussa un soupir. Et à quoi bon tout cela? À quoi cela nous sert-il? Pourquoi m'avez-vous remarqué et vous êtes-vous attaché à moi? Ce n'est sûrement que pour mon malheur. Quelle croix pour moi! Et mon mari et les gens? Car qui ne s'en apercevra pas? Oh, pour cela, sois tranquille, Oulana! S'écria Thaddée, plein de joie, en se serrant contre elle et en la pressant entre ses bras. Ne crains rien, moi, je te défendrai, moi! Il voulait parler, mais la femme se dressa avec la soudaineté de l'éclair et courut vers la forêt en ne regardant ni à droite ni à gauche. Et avant que Thaddée se fût levé, il n'était plus le temps déjà de la poursuivre, parce que son casaquin avait disparu parmi les buissons épais qui entouraient le tertre. Il ne bougeait pas de ce tertre. « Qu'est-ce que cela ?» se disait-il, appuyé sur son fusil, les yeux fixés à terre. « Mais qu'est-ce que cela ? Oh, comment ça finira-t-il ? Aurais-je donc de l'amour pour un casaquin ? Mais amour étonnant, inconcevable et insensé, pour une femme simple et inculte. C'est incompréhensible. Mais d'où lui viennent ces yeux, ce visage ? D'où lui vient ce sourire et ce parler? Pourquoi, du moins, n'est-elle pas libre? Si elle était fille, oh alors, le monde aurait beau jaser, se moquer, railler. Il poussa un soupir et passa la main sur les plis de son front. Mais advienne que pourra, je suis fou! À ces mots, il jeta une branche cassée sur le tertre, selon l'usage, et précédé de son chien, s'achemina lentement vers la maison. Chapitre 7. Thaddée ne pouvait comprendre, ne pouvait concevoir ce qui se passait en lui. Et quand s'y prenait à songer à la cause d'un tel changement intérieur, il refusait presque de s'ajouter foi à lui-même. « Et qu'y a-t-il donc dans cette femme ?» se répétait-il en se sentant agité. « Elle est belle ?» Mais j'ai vu tant de belles femmes et aucune ne m'a absorbé. D'ailleurs, c'est une enfant sauvage de la poésie, sans idées et sans conversation. Et cependant, tout en se parlant ainsi, lorsqu'il se rappelait le regard d'Oulama, il sentait que ce regard pouvait remplacer et le langage et les idées, souvent conventionnelles, de ces autres femmes, auxquelles l'éducation seulement et le monde ont donné un vernis de poupée, et qui ont appris à débiter comme des pies des pensées d'emprunt qui ne sont la propriété de personne parce qu'elles sont l'héritage de tous. Inquiet de l'étrangeté du présent, il n'avait presque plus de regrets du passé ni de réminiscence de sa vie d'autrefois et n'avait cure que de l'avenir. Quel avenir? Oh, lui-même ne le savait pas encore. Quelle vie pouvait-il mener avec une femme dont le mari, la condition à la société entière, le séparait? Il y avait là un monde de conceptions différentes, tellement inférieur à celui dont sortait Thaddée. Il songeait pourtant à elle et était presque sûr que c'est elle qui le rendrait heureux. En le regardant, on pouvait répéter pour la centième fois avec un poète anglais: le cœur, ce précipice sans fond. Thaddée, accoutumé à agir à sa guise, ne pensait pas à résister à sa passion naissante, à recourir pour l'étouffer à un départ, à des distractions. Il s'y livra par désœuvrement, par nonchalance, sans même essayer d'y échapper. Si la solitude est souvent utile aux jeunes gens, combien de fois cet isolement absolu du monde leur devient dangereux et les ramène à la barbarie. L'homme a besoin des hommes. Celui-là seul peut vivre solitaire qui s'est séparé d'eux pour s'unir à Dieu.
Celui qui épouse la solitude doit renoncer au monde, mettre un cilice et se plonger dans la prière. Et même ainsi, chacun ne saurait résister aux tentations du désert et aux fantômes du passé. Thaddée, naguère amateur frénétique de la chasse, parce qu'elle était son unique occupation et distraction, avait peur maintenant de s'éloigner de la maison pour ne pas perdre de vue Oulana, qui accourait souvent au château. Quelquefois, il errait dans le village, choisissant les moments où tous étaient au champ. Il épiait, il flânait, mais Oulana l'évitait. Ces femmes ont si peu de temps libre. Le travail occupe tous leurs instants. Tant de tracas, un tel labeur matériel, les absorbent dans leur chaumière qu'il leur est presque impossible de penser à elles-mêmes. L'homme a besoin d'un peu de liberté d'esprit pour commencer à vivre intellectuellement. Le travail manuel tue lentement son âme. Mais Thaddée oisif, dont toute l'occupation était de penser, qui faisait les rêves les plus bizarres, persécuté par le regard d'Oulana, par ce regard qui ne pouvait s'expliquer, le cherchait partout, désirait le voir, toujours, et errait pour le rencontrer. Et, se disait-il, mais tant d'hommes l'entourent et la voient, et pourquoi personne n'a-t-il remarqué en elle ce que j'y observe? Il est vrai que ces gens-là diffèrent de moi entièrement, mais il me semble que la force de ce regard devrait réveiller l'âme d'un mort, arracher de ses langes l'esprit d'un idiot incurable, faire d'un homme simple un prophète, d'un muet un poète. Puis il regrettait qu'Oulana ne fût que la femme d'Ornstar, qu'elle fût obligée de travailler avec les bêtes de somme, et autant qu'une bête de somme. Il voulait l'affranchir de ce pénible esclavage. Mais de quelle manière? Le village entier s'en apercevrait, et elle-même voudrait-elle, aux dépens de la paix domestique, s'acheter une vie plus aisée? Oh, sûrement que non. En attendant, Oxen, le mari d'Oulana, est sur la route de Berdizhev, et Thaddée, en la voyant tous les jours, soit ici, soit là, se rapprochait d'elle peu à peu, l'habituait à lui, la familiarisait avec la pensée de la violation de la foi jurée et du péché. Il ne voulait plus se dominer ni reculer. Pendant qu'il se dit qu'un pareil amour pour une telle femme n'est qu'une incroyable démence et que cette femme n'est capable ni de s'en rendre compte ni d'apprécier ses sacrifices et ses sentiments, cette passion déréglée, invaincue et manifestement folle avance toujours, mais par une route différente de celle que n'importe quelle autre passion aurait tracée à un châtelain épris d'une villageoise. Enfin, tous y firent attention, tous s'en aperçurent. Thaddée changea sa manière de vivre, ses habitudes. On le voyait causer avec Oulana, parcourir souvent le village. Le vieux père d'Oulana hocha le premier la tête, en surprenant une fois le regard obstiné que le seigneur attachait sur sa fille. Le vieux Levko à la chaumière et s'assit à table, soucieux et les sourcils froncés. Cette découverte l'avait ému, mais il n'osait la communiquer à personne. Il se souvint tout à coup de la soudaineté de l'ordre de départ d'Anxar, et de là une foule de conjectures, et de ces conjectures sortit une triste réflexion. Comment remédier à ce malheur? Le paysan polésien, malgré de quotidiens exemples de l'infidélité des femmes et de la honte des filles, est très sensible à ces affronts. Ne pouvant se venger de son seigneur, il se vengera de sa femme. Et malheur même au seigneur s'il le réduit à ses extrémités. Alors, désespéré, il mettra le feu à la grange et au château et s'enfuira. Mais le vieux Levko n'était pas encore assez sûr de ses soupçons pour qu'il pût déjà ruminer sa vengeance. Il n'avait que le cerveau obsédé de noires suppositions.
Il se rendit au cabaret. En route, il rencontra le père d'Oxène, un vieillard chancelant qui marchait à l'aide d'un bâton et vivait déjà du pain de son fils dans la chaumière. Il l'emmena avec lui au cabaret. Après y avoir installé le vieux dans un coin auprès d'une table, près d'un setier, Lefko commença à le questionner.
As-tu vu jamais le seigneur dans ta chaumière?
Oui, on dit qu'une fois il est venu se rafraîchir. Eh bien quoi?
Rien.
Et où Lana va-t-elle souvent au château?
Comme toujours. Eh bien quoi?
Rien. Et n'as-tu pas vu le seigneur rôder quelquefois auprès de votre chaumière?
Oui, quelquefois.
Lefko s'accouda et se mit à réfléchir.
Et où Lana n'a-t-elle pas couché la nuit au château?
Oh non, jamais! Deviendrait-il sur ta fille un vilain soupçon?
Non, non, vieux, mais j'ai peur. Le seigneur est jeune. Elle est belle et le diable ne dort jamais.
Mais laisse donc le seigneur tranquille. Est-ce qu'il sauve à ces choses-là? Il s'occupe de son fusil, de ses chiens, et il lui suffit de flâner dans les bois, voilà tout.
Non, 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 mon ami, non. Je vois quelque chose, je pense à quelque chose, et j'y pense pas sans raison. Cela n'en touche pas mot à personne.
Mais il me semble qu'ils s'entendent. Oh, ils se connaissent.
Pourtant, Oulana a servi autrefois au château, et rien de semblable ne s'est jamais passé. Et maintenant, lorsqu'elle est maîtresse de maison et mère de famille, il faudrait alors qu'elle fût possédée du diable.
« Et te souviens-tu de Natska, la femme de Procope ?» dit Lefko.
« Oh, oh, eh bien, je m'en souviens, oui.
Mais elle vécut 5 ans avec son mari. Puis le régisseur lui tourna la tête. Procope donna au régisseur une raclée dans la forêt en l'y surprenant avec sa femme. Le régisseur lui rendit le double de ses coups le lendemain, pendant qu'il faisait sa corvée au château. Et après... Ah oui, on a fait de Procope un soldat. Et Natska est à la maison du régisseur. Et ses enfants sont devenus à toujours orphelins.
Eh ben, c'est vrai. Oulala n'est pas telle, oh non, le seigneur non plus.
Non, mais qu'un seigneur, c'est pire qu'avec un régisseur. Que peut-on lui faire? Que peut-on lui dire? Il faut souffrir, car même il serait impossible de s'enfuir. Maintenant, on vous retrouverait même au fond de l'enfer. Et après, on vous enrôle, en tout cas. C'est la misère. Les enfants sont perdus.
Mais puisque c'est pas le cas ici, et qu'Oulana n'a pas cela en tête, tu rêves, mon vieux.
Dieu veuille, à ta santé, compère. À ta santé, à la tienne. Bonne santé, porte-toi bien. Et puis les deux vieux, déjà à moitié ivres, commencèrent à exposer longuement leur misère et les tourments de leur condition, si bien qu'ils s'endormirent à table. Mais lorsque Lefko s'éveilla après avoir fait un somme, tout cela lui revint à la pensée. Il secoua le bras du vieux père d'Oxène, parce qu'il était déjà nuit et qu'il était temps de rentrer à la chaumière. Le vieux, à demi réveillé, se traînait à petits pas dans la rue boueuse, en réfléchissant à ce dont Lefko lui avait parlé. Mais, bon, dans la tête, il n'y ajoutait pas foi. Et indifférent, désenchanté, habitué à tout, il n'envisageait pas la honte de son fils et le déshonneur de sa belle-fille du même point de vue que Lefko. Au contraire, s'il devait même en être ainsi, il n'y voyait rien de si fâcheux. Moitié méditant, moitié sommeillant, il arriva jusqu'à sa porte. Au seuil, il rencontra Oulana, vêtue comme pour sortir. Elle avait un casaquin, ses souliers du dimanche, ses bas, un mouchoir blanc sur la tête. Elle était exceinte d'une écharpe de couleur. Le vieux la remarqua, quoiqu'il fît sombre, et s'arrêta sur le seuil.
« Ce serait donc vrai, pensa-t-il.
Où vas-tu ainsi pendant la nuit, Oulana? Lui demanda-t-il.
Chez la femme du régisseur, répondit-elle hardiment. Elle a envoyé me chercher parce que son enfant est malade. Il faut le soigner.
Tu as les tiens dans la chaumière?
Oui, Prisca est auprès d'eux.
Mais Prisca n'est pas leur mère, répliqua le vieillard en franchissant le pas de la porte. Mais que Dieu te conduise puisque tu le veux.
Il jeta encore un regard autour de lui et s'en alla en enfonçant son bonnet sur sa tête. Oulana haussa les épaules et courut au château. Toutefois, elle n'allait pas chez la femme du régisseur. Oh non! Ce n'était plus la première fois qu'à l'appel du châtelain, elle l'accompagnait à la forêt ou au jardin. Et qu'enlacée dans cet amour seigneurial, dont elle avait tant entendu parler dans les chansons, elle oubliait déjà et ses enfants et sa chaumière et son mari et la honte et tout, car elle aimait son maître. Comment cela était-il arrivé? D'où cela provenait-il? Elle l'ignorait. Elle pleurait souvent sur elle-même. Cependant, elle retournait chez lui et lui sacrifiait sa quiétude, ce qu'elle avait de plus précieux, pour un peu d'exaltation, à laquelle, sans même en concevoir la meilleure partie, elle se plaisait à prêter l'oreille, comme à une lointaine chanson dont le vent vous apporte un fragment incompréhensible, mais harmonieux pourtant. Avec lui, elle passait des nuits entières, soit au jardin, soit dans l'épaisseur de la forêt. Ils s'entretenaient sans se parler ou avec peu de paroles. Et c'était néanmoins une conversation si remplie. Ils étaient heureux d'un bonheur très particulier, inconcevable, anormal, pour lequel l'un devait se hausser par trop haut et l'autre se courber par trop bas. Et malgré tout, c'était là de la félicité et non un moment de satiété, ni une folie passagère. Ils le sentaient tous deux, et c'est en vain que sa raison railleuse montrait à Thaddée qu'autre serait le lendemain. Ce lendemain était encore éloigné. C'était de la félicité, quoique au-dessus d'eux flottassent des tempêtes, et qu'elle ne fût exempte ni de larmes, ni de troubles, ni d'humiliation. C'était une félicité brève, fragile, misérable, et comme tout ce qui est terrestre, avec de l'amertume au fond, un réveil douloureux, une menace au front, mais en habit de fête et d'un enivrement voluptueux. Oulana était-elle auprès de son maître que son cœur brûlant semblait saisir tout ce que lui disait Thaddée, qui parfois, dans l'emportement de sa passion, prodiguait à la villageoise des paroles et des pensées d'un tout autre monde, quoiqu'il ne tardât pas à reprendre son sang-froid et qu'il mît à sa portée ce qu'il pouvait y avoir d'incompréhensible pour elle, en accommodant la forme et l'expression de son amour à ce cœur auquel il adressait plutôt des baisers que des serments ou des mots. Il y avait quelque chose d'étrange dans leur causerie nocturne, dans leur rendez-vous, dans leur familiarité. Mais leur position s'expliquait par le charme du regard et du sourire d'Oulana, sa vive conception et son amour croissant de jour en jour. C'est qu'un villageois, si ignare et si négligent qu'il soit, a plus de poésie dans l'âme que les autres classes inférieures de la société. Et la paysanne est encore plus poétique que le paysan. Ils y sont disposés par leur fréquentation de la nature et par leur souffrance, qui les berce de songes et de rêveries. Et leur fraîche intelligence s'abreuve avidement à la source de vie. Chez eux, la corruption elle-même revêt souvent les couleurs les plus séduisantes de je ne sais quelle beauté que le citadin ne désire ni ne comprend. Thaddée oubliait volontiers près d'Oulana toutes les anciennes aspirations poétiques de son âme, tous les agréments d'un milieu différent, tout ce qui n'appartenait pas à la sphère du présent. Il ne vivait que dans cette idylle singulière, dans un étourdissement continuel, dans une ivresse sans délivrement. La raison se faisait entendre toujours plus rarement avec ses railleries. Elle tomba vaincue et resta muette. Ainsi passèrent les jours, les soirées, les nuits, les semaines. Et déjà dans le village, on en jasait de plus en plus. Le châtelain n'en savait rien, et Oulala ne s'en souciait plus. Elle l'aimait de toute sa passion et de toutes ses larmes jusqu'à la mort, jusqu'au dévouement sans limite, jusqu'à l'oubli de ses devoirs de mère.